France Culture, Avoir raison avec Monique Wittig par Sophie-Catherine Gallet.
Aujourd'hui, quatrième épisode de notre série Monique Wittig politique, la pensée straight. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième émission avec Monique Wittig. Lundi, nous dressions un portrait de Monique Wittig par sa théorie du cheval de Troie. Mardi, nous réfléchissions à l'Opoponax et son travail sur la langue française. Hier, nous avons parcouru avec Monique Wittig et ses guerrières l'effervescence politique féministe de la France des années 70. Et aujourd'hui, nous nous plongeons dans le recueil « La pensée straight ». En 1978, Monique Wittig tient un colloque aux États-Unis qu'elle conclut par « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », une phrase qui provoquera de nombreux débats dans les sphères militantes, lesbiennes et féministes. De cette communication, Monique Wittig tire un article qu'elle intitule « La pensée straight », qui trouvera sa place en 1992 dans un recueil de ses essais politiques écrits sur plusieurs années, un recueil qui paraîtra sous le titre « The Straight Mind » aux États-Unis. 9 ans plus tard, en 2001, et seulement 2 ans avant la mort de Wittig, Sam Bourcier traduira la majorité des textes qui constituent ce recueil pour offrir, enfin au public français, la pensée politique de Monique Wittig. Un essai fourmillant des idées, des théories que Monique Wittig a construites durant toute sa vie par son travail littéraire, par son militantisme politique, lesbien, féministe, et qui se décline en plusieurs chapitres, de la catégorie de sexe à « On ne naît pas femme » ou encore à « La marque du genre ». Chacun de ces chapitres dynamite des présupposés qu'on ne penserait plus à questionner et développe des concepts passionnants comme celui d'un contrat social hétérosexuel qui régirait nos sociétés. Mais que veut dire Wittig par ce contrat social hétérosexuel? Quelle est la pensée straight? Pour en discuter avec nous, Natacha Chetkuti-Ozorowicz, à distance depuis Rennes. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'ENS Paris-Saclay. Vos travaux portent notamment sur l'épistémologie féministe et les violences de genre. Bonjour.
Bonjour.
Mais d'abord, rappelons le contexte dans lequel est née la pensée de Monique Wittig quand elle était encore en France. Un contexte extrêmement violent d'une homophobie normalisée contre laquelle il fallait se dresser.
Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, je ne sais pas, nous serions très vite par produit, enfin. Enfin, je ne sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme de vie. Il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle.
Bon, alors on parle de l'homosexualité d'une façon absolument horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Alors, on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de détermination
mais
sexuelle
oui, vous
autre,
vous
que dites, autre que sociale.
L'individu, permettez une seconde.
La seule question...
Je suis un peu désolée du bruit de la salle qui ne nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné. La poule a envahi la tribune des homosexuels.
Liberté.
Ce son nous rappelle cruellement combien il y a encore si peu de temps l'homosexualité était considérée comme un douloureux problème, pour reprendre les mots de cette émission de Méni Grégoire. Natacha Chetkuti, hier nous parlions de la lesbophobie qui existait dans le MLF au point de faire fuir Wittig de Paris. Ce contexte historique, social, est-ce qu'il vous paraît fondamental déjà pour appréhender la pensée straight de Monique Wittig?
Oui, absolument. Et alors, on pourrait dire déjà, en entendant cet extrait sonore que je n'avais pas écouté depuis fort longtemps, que quand même, il y a eu ces 10 dernières années, notamment en 2013, autour de des contestations sur le mariage pour tous et toutes, ces mêmes rhétoriques contestataires. Donc, on peut voir quand même qu'il y a une actualisation qui revient assez entre l'idée que la question de la sexualité reproductive avec négation de la vie, on pourrait dire cette hétérosexualité, ce douloureux problème. Mmh. Voilà. Et donc, on arrive dans les éléments de contexte. Donc, effectivement, vous l'avez rappelé, 78, dans un moment où il y a deux éléments qui s'entrecroisent. Le premier qui est que, et dans les mouvements militants, on assiste à une forme d'hétérosexisme où la question de l'hétérosexualité, le primat de l'hétérosexualité n'est jamais remise en cause, y compris dans les mouvements féministes. Et avec aussi l'idée que le lesbianisme serait une spécificité, un problème à l'intérieur même des mouvements féministes. Et dans les mouvements aussi gays et lesbiens, qu'on n'appelle pas forcément gays et lesbiens à l'époque, les mouvements homosexuels révolutionnaires, la question des féminismes n'est pas non plus forcément reliée à la question, je dirais, de la contestation sociale. En tout cas, ce qui caractérise cette époque, c'est effectivement la remise en cause de ces modèles sociaux et l'idée de penser autrement la question de l'oppression. Et Wittig va mettre l'accent sur cette question, sur une analyse de la pensée de la domination fondée sur le primat de la différence. Et c'est à partir, je dirais, de ces deux fondements qu'elle va rédiger la première version en 78 de ce qui va devenir plus tard la pensée straight, dans une communication qu'elle va donner dans un congrès de Modern Language Association. Et elle sort ainsi d'emblée, non seulement d'une vision réductrice du lesbianisme pensé comme orientation sexuelle, comme on vient de l'entendre, mais en plus, l'idée que le lesbianisme est une position, une politique de résistance. Et également, ça va permettre d'emblée aussi de sortir d'une analyse trop réductrice féministe des mécanismes d'oppression qui aurait peu problématisé les stratégies de dépassement du patriarcat en justement ne questionnant pas le fondement du régime hétérosocial. Et donc oui. Ici, l'hétérosexualité va être analysée comme une des stratégies plutôt du patriarcat. Et donc, voilà, c'est dans tout ce contexte et dans ce contexte aussi conflictuel, hein, à la fois sur le plan de ce qu'on vient d'entendre, des messages, du régime politique, d'ailleurs, de l'hétérosexualité, mais y compris aussi dans les milieux militants où il va y avoir une série de controverses, y compris dans la pluralité des féminismes sur ces questions.
Et l'ensemble de textes donc, que forme la pensée straight, donc il y a un recueil straight aussi qu'il faut essayer de traduire, c'est un mot polysémique en anglais, on pourrait traduire ce titre par peut-être la pensée hétérosexuelle ou peut-être plutôt la pensée hétéronormée. En tout cas, ces textes donc signent l'apogée de la pensée politique de Wittig et ils la rassemblent. Et ce qui est le plus frappant, et c'est déjà ce que vous nous évoquiez un tout petit peu là dans votre première réponse, c'est la manière dont elle annihile très simplement en fait l'hétérosexualité en dépassant l'idée de l'orientation sexuelle, mais en le présentant comme un système politique par sa théorie donc d'un contrat social hétérosexuel. Alors, il y a des bases, des théories politiques très claires derrière cette pensée, une grille de lecture marxiste. Natacha Chetkuti, vous pouvez nous expliquer comment Wittig en arrive au concept de contrat social hétérosexuel, décidément hétérosexuel, ce qu'elle dénonce aussi par ce terme?
Alors, peut-être avant de tout de suite discuter justement de cette notion de contrat sexuel, contrat social, peut-être revenir sur la généalogie théorique dans laquelle elle puise aussi, son travail théorique, politique et son travail aussi d'écrivain. Elle dialogue beaucoup avec les féminismes matérialistes, parce qu'ils sont aussi pluriels, et notamment avec Colette Guillaumin et Nicole Claude Mathieu, qui sont donc Colette Guillaumin, une sociologue qui a beaucoup travaillé sur la question aussi du racisme, et Nicole Claude Mathieu, qui est une anthropologue qui a aussi beaucoup travaillé sur la question des catégorisations de sexe. Et donc elle puise, ce dialogue théorique autour des notions de rapport d'appropriation, et ça je vais un peu insister là-dessus, le rapport d'appropriation qui permet de comprendre les séries d'infériorisation et de naturalisation des femmes à l'intérieur d'un rapport de classe, et effectivement qui s'inspire du marxisme, et qui cette fois-ci dans une perspective plus marxienne, c'est l'idée que le corps, en reprenant les théories de Guillaumin d'ailleurs, est un réservoir de force de travail, et c'est en tant que tel qu'il est approprié. Et Colette Guillaumin va montrer comment se constituent les classes de sexe dans le rapport d'appropriation matérielle et idéologique des femmes par l'appropriation du temps, le confinement dans l'espace, l'entreprise naturalisée de la maternité, l'instrumentalisation du corps dit féminin, l'obligation sexuelle, la pratique qu'on pourrait appeler aujourd'hui des violences de genre, évidemment à l'époque on ne formulait pas comme ça, la légitimation aussi d'un discours de nature qui va accentuer la division sexuelle du travail. Et Wittig s'inspire des travaux de Guillaumin pour montrer que s'il existe une hétérogénéité à l'intérieur de la classe des femmes, entendue comme ce que je viens d'expliquer. Toutefois, il subsiste des groupes concrets, matériellement efficaces dans ce rapport social, dont la catégorisation est réactualisée selon les contextes sociaux, politiques et historiques. Donc ça, c'est l'idée qu'il faut retenir, c'est donc bien le rapport social qui constitue le groupe social femme et non pas l'idée de nature. Tout comme, alors je vais vous donner un exemple, alors c'est ma pratique d'enseignement, mais
oui,
tout comme le racisme produit la race, et non le contraire, eh bien le sexisme produit le sexe par l'effet du rapport de domination qui réduit les dominés à des choses ou des objets naturels. Et donc, au fondement de ces analyses, Wittig se trouve plutôt dans une critique de la manière dont l'idée de nature comme justification de l'appropriation individuelle et collective, légitime l'assujettissement de la domination de certains groupes sociaux, ici principalement la classe des femmes. Et donc, c'est ici où le concept de classe de sexe en tant que rapport social va être au centre de sa réflexion. Mais là où elle va se distinguer des féministes matérialistes, en tout cas de certaines, en tout cas, c'est que elle montre comment ce qui structure l'ensemble de l'organisation sociale, ce ne sont pas les classes de sexe, mais c'est plutôt l'hétérosexualité comme régime politique, qui constitue la racine du système, et ce qui signifie de ne plus penser le contrat social à partir du concept de patriarcat, mais de société hétérosexuelle, qui, effectivement, cette société hétérosexuelle est construite, ou se justifie, se maintient, se coproduit par ces logiques de différenciation, dont la division sexuelle du travail, la hiérarchisation, la spécialisation des tâches, etc.
Donc elle nous parle en fait déjà presque de charge mentale, Wittig, pour la réactualiser un peu à notre époque contemporaine.
Oui, tout à fait, oui. Absolument.
Et elle reprend... pardon, allez-y. Vous avez...
Non, allez-y, j'allais repartir sur le contrat social, justement.
Wittig reprend aussi donc cette grande idée phare de Rousseau, hein, qui est donc celle sur laquelle s'est bâtie notre société française après la Révolution des Lumières, le contrat social. Et donc pourquoi ça a été si important pour Wittig de s'inclure finalement dans une histoire des idées aussi, dans une histoire des idées très françaises?
Alors d'abord, vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, mais effectivement, Wittig travaille sur les textes les plus classiques, là aussi, que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan de la littérature, pour transformer le monde et pour réinterpréter aussi le monde. Donc elle part effectivement de Rousseau et elle montre que cette notion de contrat social qui apparaît au 18e, au 18e siècle, 17e, 18e, au fond, au départ, se donne pour définition, et elle le cite dans son chapitre d'ailleurs sur le contrat social, que le contrat social est une forme d'association qui défend, protège une force commune, les personnes, les biens, etc. Mais en fait, elle montre que ce contrat social, dans son idéal, est en fait un contrat bâtard, dit-elle, qui ne dit pas son nom. Et qui ne dit pas son nom parce qu'il est formalisé à l'intérieur... et c'est pour ça qu'elle s'y intéresse d'ailleurs. Elle explique que ce contrat social est une notion au fond capitaliste, pré-capitaliste, qui maintient l'exploitation et des formes de production et d'exploitation de la classe de sexe femme par la classe de sexe homme. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, elle inclut dans son analyse du contrat social, du contrat hétérosexuel, aussi la question du langage, non pas comme un élément symbolique, mais comme un élément de cette matérialité de l'exploitation des formes de production aussi. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que il faut rompre avec ce contrat hétérosexuel, non pas en tant que contrat social. Elle dit même que ce serait absurde, et avec beaucoup d'humour, parce qu'elle a beaucoup d'humour, mais elle dit qu'il faut reprendre contrat idéal que, au fond, Rousseau implicite n'inclut pas dans sa forme hétérosexuelle, mais qu'il faut, parce qu'au fond, dans ce contrat-là, l'hétérosexualité semble aller de soi, puisque l'hétérosexualité n'avait même pas de nom. Je rappelle qu'au 19e siècle, l'hétérosexualité ne fait pas partie des catégorisations. Elle apparaît en lien avec l'homosexualité. Oui. Donc c'est la norme sociale, c'est ce régime politique qu'il s'agit de détruire, et notamment, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut, pour rendre la vie possible commune, eh bien revoir ces conventions, puisqu'en fait, ce contrat social de l'hétérosexualité, au fond, il y a toute une partie, on pourrait dire, les dominés n'y consentent pas. Et dans ce texte, elle dialogue, je parlais de Nicole Claude-Mathieu tout à l'heure, avec une autre anthropologue, qui est Nicole Claude-Mathieu, et notamment avec son article « Quand céder n'est pas se consentir », qui est un article majeur, où elle montre
aussi.
Très d'actualité, tout à fait, et qui montre comment, au fond, la conscience dominée réduit les dominés au silence, et donc on ne peut pas lire un consentement quand on est mis au silence. Exactement. Et donc rompre le contrat social en tant qu'il est hétérosexuel est pour Wittig une nécessité pour qui n'y consent pas, puisque les dominés n'ont pas l'ensemble des termes du contrat à disposition.
C'est limpide.
Bon.
Donc Monique Wittig nous parle de ce système politique et elle pense aussi donc les catégories hommes-femmes en termes de classe sociale. Quelques années avant Wittig, il y avait une autre grande penseuse du féminisme qui réfléchissait aussi à la question de la femme, des femmes.
C'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles », et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
France Culture, avoir raison avec Monique Wittig par Sophie-Catherine Gallet.
Bon, vous l'aurez sans doute reconnu, c'était Simone de Beauvoir explicitant sa fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Alors pour bien comprendre ce que Monique Wittig veut détruire puis reconstruire, il faut probablement aussi revenir aux racines de l'idée même de la femme, un mythe dont Wittig dit qu'il faut absolument se détacher, un concept qu'elle écrit « la-femme tout attachée », ce « la femme » qui raconterait comme une immanence, quelque chose qui préexisterait qu'on le veuille ou non. En cela, elle va aussi plus loin en fait que Simone de Beauvoir en déclarant donc qu'on ne devient pas femme, mais qu'on n'est pas femme tout court. Beauvoir pose bien entendu les jalons de la pensée féministe, mais il y a chez elle, selon vous, Natacha Hachette-Cutty, un angle mort. Beauvoir n'admet pas, ou plutôt n'envisage même pas, qu'on puisse dépasser ces mêmes catégories d'hommes et de femmes. La pensée de Wittig, pour vous, elle prolonge celle de Beauvoir, ou plutôt elle l'invalide, en fait?
Alors, est-ce qu'elle... est-ce qu'elle invalide? D'une certaine manière, en tout cas, elle va plus loin. Et d'ailleurs, elle répond à Simone de Beauvoir sur ce « on ne naît pas femme » à « on n'est pas femme » en 79, donc 30 ans après la parution du deuxième sexe. Alors après, il faut toujours contextualiser quand même les écrits à l'intérieur, effectivement, d'un contexte politique sociologique. Quand Beauvoir dit « on ne naît pas femme », c'était déjà le début d'un constructionnisme et l'idée d'une dénaturalisation, toutefois, quand même. Mais pour Wittig, comme on l'a bien compris tout à l'heure, la catégorisation femme n'a de sens que dans le système hétérosexuel. Donc elle va opérer une rupture épistémologique, y compris d'ailleurs avec un certain nombre de théoriciennes féministes qui se revendiquent de Simone de Beauvoir. Parce que Beauvoir, effectivement, remet en cause l'idée d'un déterminisme femme, en tout cas dans ses formes de socialisation, mais elle ne remet pas en cause ce devenir femme. Monique Wittig va lui répondre, en quelque sorte, et va aller plus loin que Simone de Beauvoir en montrant que ce mythe de la femme au singulier n'est qu'un mythe, qui est un mythe qui, en fait, se construit dans ce présupposé de la différence des sexes, qui structure la pensée de la différence en donnant un statut inné et a priori à l'hétérosexualité. Et donc, en maintenant cette pensée naturalisante entre masculin et féminin, ce processus entretient le déséquilibre social de la répartition du pouvoir entre classe de sexe homme, classe de sexe femme. Mmh. En outre, ce que montre Wittig, c'est qu'elle répond aussi au chapitre, justement, enfance, dont parle Beauvoir dans l'extrait qu'on vient d'entendre, où pour Beauvoir, il y a quand même dans ce chapitre l'idée que les amitiés entre adolescentes, qu'elle perçoit comme transitoires, ne sont pas tout à fait normales. Et en fait, quand même, il y a l'idée qu'il y a un impératif hétérosexuel qui va donc jeter le discrédit sur toute autre forme de relation. Et où, donc, pour Beauvoir, l'homosexualité est une relation entre deux mêmes, où l'une serait le miroir de l'autre, ou alors une espèce quand même de voilà, c'est soit cette version-là, soit une catégorisation des lesbiennes dans lesquelles il y a une dualité du genre qui fige une stéréotypie de personnage, virilité versus féminité. Et en fait, Wittig va démontrer que cette distinction construite entre féminité et masculinité est une distinction qui est à la base de la société hétérosexuelle, et elle lui répond au fond en disant la catégorisation de sexe est à ce titre une catégorie totalitaire, et là je reprends les termes de Wittig, puisqu'elle vient former l'esprit tout autant que le corps et qu'elle contrôle la production mentale. Et donc, il nous faut penser en dehors d'elle. C'est la raison pour laquelle Wittig vise à détruire et à penser au-delà même de cette catégorisation femme, puisque c'est au fond un piège de l'hétérosexualité. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et donc et on ne peut pas penser le changement social que si l'on n'abolit pas l'utilisation de cette catégorisation de sexe qui est soumise à l'économie hétérosexuelle.
Et donc finalement, ce qu'elle veut faire par sa théorie politique, c'est aussi quelque chose qui se rapproche de son travail sur le langage dans la littérature, comme on a pu le voir dans les précédentes émissions notamment, et c'est une volonté avant tout donc d'abolir des concepts, ceux qui nous oppriment.
Tout à fait. Et c'est en cela que le langage est très important pour Wittig. Comme il y a un enjeu politique du langage dans les manières, certes, d'agir en tant que d'agir en tant que réalité sociale, mais aussi dans les sciences sociales. Et elle tient un discours très critique. Elle dialogue aussi. Elle va remettre en cause les textes de Lévi-Strauss, par exemple. Et elle montre comment, dans ses textes en sciences sociales, il y a quelque chose qui tient pour acquis que toutes ces sociétés sont hétérosexuelles. Et que, en fait, en tenant cela pour acquis, cela nie la possibilité de créer nos propres catégories, en nous empêchant de parler, sinon dans les propres termes que la société majoritaire. Et c'est en cela que Wittig qualifie d'oppression matérielle la question des discours, c'est-à-dire ces discours qui parlent de nous en tant que groupe minorisé et qui prétendent dire la vérité. Alors là, je dis nous, hein, parce que on peut inclure tout un champ de groupes minorisés, et donc et qui en plus permet de considérer que les groupes minoritaires sont dans un champ apolitique, et cette question ne permet pas une réflexivité des sciences humaines dominantes. Donc voilà, ordonne même de rester dans ses rangs.
Ouais. Et c'est ça donc qu'elle voulait signifier avec sa fameuse phrase, donc les lesbiennes ne sont pas des femmes.
Et c'est ça.
Vous y avez répondu.
C'est ça. C'est-à-dire que les lesbiennes ne sont pas des femmes, car cette catégorie n'a de sens que dans ces systèmes de pensée économique hétérosexuelle. Et en outre, et là elle revient avec sa discussion avec Colette Guillaumin, les lesbiennes échappent à l'appropriation privée pour Wittig parce qu'elles sortent de la dépendance personnelle ou collective d'ailleurs, mais personnelle d'un homme ou d'hommes, mais pour autant, elle n'échappe pas à l'appropriation collective, et c'est en ça qu'on est dans ce rapport social classe de sexe homme, classe de sexe femme.
Et c'est donc comme ça que Monique Wittig considère qu'il faut dépasser cette idée d'une différence comme un présupposé absolu à la fois biologique et social, et que ça permettrait donc d'aboutir à l'égalité. Et ce qui est intéressant aussi dans la pensée de Wittig, c'est qu'elle réfute aussi l'idée d'un matriarcat qu'elle tient autant en horreur qu'un patriarcat. Et donc finalement, en abolissant le genre, est-ce que c'est finalement l'idée de domination qu'elle veut annihiler, Natacha Chetkuti?
Absolument. Je ne pense pas que le terme d'égalité, d'ailleurs, soit son terme, parce que l'égalité renvoie, au fond, au référent existant. Et elle se sépare effectivement aussi, d'ailleurs tout comme Nicole Claude-Mathieu et Colette Guillaumin, mais de la pensée marxiste, l'idée n'est pas non plus de remplacer une classe par l'autre. Mais c'est plutôt, effectivement, l'abolition des classes de sexe, le dépassement du système sexe-genre, et elle propose, au fond, une utopie plus profonde, qualitative, dans l'idée de... Moi, j'avais écrit un article qui s'appelait « On n'est pas femme, on n'est pas femme », et donc dans l'idée qu'on ne s'acharne, on s'acharne à ne pas le devenir, il y a quelque chose comme ça, on construit une autre forme d'humanité, une espèce qui ne se réfère plus à ces catégorisations de sexe pour se situer dans le rapport au monde. On assiste à une déconstruction du système naturalisé de genre, mais également une dénaturalisation du régime politique de l'hétérosexualité, ce qui ne veut pas dire annulation de l'altérité. Parce que bien souvent, dans nos sociétés, ce qu'on confond, c'est altérité et différence. L'altérité, c'est que l'autre n'est pas moi, quel que soit l'autre. un animal n'est pas moi non plus. Mais pour autant, j'ai de l'altérité avec un rapport animal, j'ai de l'altérité avec un rapport humain, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est problématique, c'est la question de la différenciation qui s'inscrit dans une logique de naturalisation hiérarchisée. Et en cela, il n'y a plus d'altérité, mais il y a des groupes minoritaires et minorisés.
Ouais.
Et minorisés par qui ? Par le système majoritaire.
Et oui, donc on a un bel aperçu de ce que pourrait être la société idéale de Monique Wittig, et une société à laquelle elle espère peut-être arriver, en tout cas, grâce notamment au lesbianisme politique, et ça aussi c'est une pensée révolutionnaire, hein, de lier l'intime et le politique. Alors, quelles sont les caractéristiques du lesbianisme politique pour vous, tel que pensé par Wittig, et est-ce que, surtout, il est différent de celui qui est revendiqué aujourd'hui pour vous, Natacha Chetcuti ?
Alors, elle se différencie effectivement... Il faut savoir quand même qu'à l'époque, hein, quand Wittig allait publier en France « On ne naît pas femme » et « La pensée straight » dans la revue « Questions féministes », qui va devenir « Nouvelle question féministe » par la suite. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les compliments. Ouais, il y a une autre auteure qui lui répond, qui s'appelle Adrienne Rich, qui va proposer la notion de continuum lesbien comme mode de relation, de survie, et qui, dans lequel elle inclut des expériences d'identification à toutes les femmes, de solidarité, de pratiques, d'échanges, comme un moyen de résistance à la domination masculine. Et alors là, cette posture a été aussi critiquée de la part de certaines tendances lesbiennes politiques qu'on peut complètement contemporaniser aujourd'hui, même si cette notion de continuum lesbien peut-être est moins présente, mais dans les formes de solidarité ou d'étendue politique, parce que pour les lesbiennes politiques, en tout cas de l'époque, ce continuum ne remettait pas en cause les fondements du système hétérosocial, c'est-à-dire que en étant juste dans une forme de résistance donc au patriarcat, en s'identifiant toujours aux femmes, eh bien on ne remet pas en cause justement ces formes d'appropriation à l'intérieur de la classe des femmes qui est définie par, hein, on l'a dit tout à l'heure en tout début, par cette appropriation du travail domestique, etc., à l'intérieur du contrat hétérosexuel. Donc si les lesbiennes échappent à cette définition, alors, et donc il est nécessaire pour Wittig de fuir ce piège de l'hétérosexualité, alors, le continuum lesbien, juste comme mode d'identification entre femmes, ne peut pas être une proposition, enfin, en tout cas, devient une solution restrictive politique.
Scones, little eyes on my tongue in the day's night. It tastes so good, it felt so right for the first time in my life. The cold ice on my tongue makes it sway towards oblivion. Vista, portal view. On my way to black and blue. On my way to black and blue. How sweet the vista, the portal view. I couldn't believe it till tonight. This whole place made of light. I made myself home. Don't know what's wrong, don't know what's right. I belong here, as animals might.
C'est sur la sublime musique de la chanteuse Anony qui nous revient 13 ans après son dernier album avec son groupe Anony and the Johnsons que nous devons malheureusement nous quitter. Merci à vous Natacha Chetcuti. Je rappelle que vous êtes sociologue et maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay. Une émission réalisée par Daphné Leblon, préparée avec Laura Dutèche-Pérez et Corinne Amar, avec Alex Dang à la technique. Un grand merci à elle, un grand merci à lui. Et un grand merci également à nos collègues de France Bleu Armorique et à la technique, à Thibaut Bourgeon. Tous les épisodes de cette série sont disponibles sur le site franceculture.fr et dans l'application Radio France. France.